Radio Campus France est présent aux Assises du journalisme de Tours et nous recevons avec Violette Sandrine Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous intervenez, vous êtes économiste, membre d'Europe Écologie Les Verts et candidate aux élections législatives dans la 9e circonscription de Paris. Et vous interveniez dans la conférence « Quel regard des médias sur les femmes en politique ?»
Et justement, à ce sujet, on a beaucoup parlé de la place des femmes et des médias dans la politique. Et la première question qu'on peut se poser, c'est la part que prennent les médias à traiter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes en politique. Est-ce qu'ils prennent une certaine part à traiter cette question ?
Ah non, ils prennent quasiment pas de temps ou de pages à écrire sur cette égalité ou cette inégalité des femmes et des hommes en politique. Et ça manque parce qu'en en fait, on aurait besoin d'articles et d'un bruit de fond permanent pour imposer l'égalité en politique. Et imposer l'égalité en politique, je rappelle que c'est pas juste faire des quotas ou faire imposer la parole de femmes, c'est aussi changer la manière dont on fait politique et la manière dont on analyse et on perçoit la politique. C'est-à-dire que quand une femme arrive en politique, on a tendance à la renvoyer à une forme d'illégitimité, de ridicule, d'incompétence. Ça, par exemple, c'est de l'analyse et cette analyse-là doit absolument changer.
Et pourquoi est-ce qu'il y a ce discours ? Est-ce que ça veut dire que c'est ancré dans nos mœurs de tenir ce discours ?
Je pense qu'on est construit socialement comme ça, que la France est un pays où la politique est particulièrement marquée par les hommes, pour les hommes, faite par les hommes, pour les hommes. J'ai l'habitude de dire cette phrase que je vais redire encore une énième fois, mais la figure politique française typique, c'est le tribun. C'est-à-dire le tribun, c'est celui qui fait des grands discours, qui écarte haut les bras comme ça et qui monte haut la voix, qui va chercher les gens dans le fond de la salle. Et le féminin de tribun, c'est tribune. Et donc, c'est la table sur laquelle il s'appuie pour faire son discours. Et ça, on a un sujet autour de trouver les mots qui permettent aux femmes d'être légitimes dans la sphère politique. Tant qu'on n'a pas les mots, on n'a pas l'imaginaire, on n'a pas la capacité à inventer des leaders, des leaderuses politiques qui sont légitimes dans les hautes sphères. Donc là, je crois qu'on a un travail collectif à mener là-dessus.
Et diriez-vous que le fait qu'il y ait peu de femmes dans le milieu du journalisme politique et dans les médias en règle générale, qu'elles sont sous-représentées, ça influence le fait qu'on donne moins la parole aux femmes politiques dans les médias.
Oui, évidemment, évidemment, et puis surtout, on silencie beaucoup les femmes. Hein. C'est-à-dire que on l'a vu par exemple lors du remaniement ministériel. C'est-à-dire qu'avant le remaniement ministériel, il y avait la ministre du Travail qui était une femme, il y avait la ministre de la Santé qui était une femme, il y avait la ministre de la Justice qui était une femme. Et tous ces grands ministères-là, qui sont des ministères régaliens, ont été remplacés par des hommes. Et donc, les femmes se sont retrouvées dans ce remaniement ministériel quasiment absentes. C'est pour ça que pendant toute la crise du Covid, par exemple, il n'y a pas eu de parole de femmes. Donc, c'était Olivier Véran qui parlait, etc. Et là, aujourd'hui, où Emmanuel Macron promet une première ministre, eh bien, on voit qu'il hésite, qu'il n'arrive pas à trouver, qu'il a interrogé plein de femmes. Et tout cela renvoie au fait que c'est comme si c'était impossible. Alors qu'il y a quand même 52% de la population qui est constituée de femmes. Et j'ai tendance à dire, mais je le redis, que quand on dit 50-50... Nous, les femmes, on fait déjà un effort. Parce que normalement, ça devrait être 52-48. Et que donc, il faut au minimum être à 50-50. Et là, il n'y a aucune sphère politique dans laquelle les femmes sont à parité.
Et si elles ne sont pas représentées, est-ce qu'elles peuvent quand même arriver à se définir en politique, les femmes ? Est-ce qu'il y a des, on va dire, des figures, des personnes qui les aident à se définir en politique ?
Il y a très peu de figures féminines en politique, et celles qui existent sont assez peu connues, ou alors elles sont de droite, c'est-à-dire qu'il y a Angela Merkel, il y a Margaret Thatcher, mais on voit qu'une Hillary Clinton, par exemple, a eu les pires difficultés à s'imposer. On voit même que Kamala Harris, là, elle a repris un peu de visibilité médiatique parce qu'il y a eu ses décisions sur l'IVG, donc sur l'interruption volontaire de grossesse, mais en fait, après ça et après... L'arrivée de Joe Biden en tant que président des États-Unis, Kamala Harris, elle avait un peu disparu pour nous. Donc en fait, c'est à chaque fois le même processus, c'est-à-dire qu'on met en avant des femmes à des moments clés où on veut aller chercher un électorat féminin, où on veut aller chercher un électorat, et puis ensuite, on les invisibilise. Et là, moi je dis aux jeunes femmes, et aux femmes, même plus vieilles, là maintenant, notre truc à nous, c'est de ne pas nous laisser invisibiliser. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut être solidaires et sorores, et c'est pour ça aussi que je dis aux hommes, maintenant il faut vous déconstruire. Alors oui, je sais que ce mot fait polémique, etc. Mais en fait, l'égalité femmes-hommes ne se fera pas tant que les hommes n'auront pas interrogé leurs propres pratiques, y compris journalistiques, mais leurs pratiques aussi quotidiennes.
Comment est-ce qu'on fait pour que ce journalisme politique devienne vraiment une lutte à part entière ?
Ça, c'est à vous de répondre à cette question. C'est pas à moi en tant que politique. Moi, je suis de l'autre côté du micro. Donc vous, en fait, vous avez à travailler dans les rédactions. Je pense que...
Donner plus la parole aux femmes ?
Donner plus la parole aux femmes, imposer davantage les femmes, être plus aurore entre vous. Et puis, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée depuis la place où je suis encore une fois de politique, c'est que les hommes politiques ont des accointances, ont des affinités avec des journalistes politiques et des journalistes hommes. Ça s'est vu de tout temps, voilà, et il y a vraiment une proximité très forte, intellectuelle, voire amicale avec les journalistes hommes. Les femmes s'interdisent ça. Les femmes politiques, les femmes journalistes politiques, pardon, s'interdisent d'être en connivence avec les femmes politiques parce que, en fait, leurs positions dans les rédactions sont tellement fragiles qu'elles ne veulent pas être accusées de connivence, justement, ou de militantisme. Là, moi, je crois qu'il faut assumer ce militantisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Là, vraiment, l'élection présidentielle a été un backlash terrible pour les femmes. C'est-à-dire que ce soit Pécresse, que ce soit Taubira, que ce soit Hidalgo ou moi avant, on s'est vraiment pris des tombereaux de propos sexistes, d'articles sexistes, etc. Là, maintenant, il faut, quelque part, avoir un réveil et avoir un sursaut. C'est-à-dire que ça, c'est possible parce que aussi on laisse dans les rédactions les hommes écrire les articles. Donc maintenant, et quelques femmes qui le sont aussi, d'ailleurs, qui sont sexistes. Donc à un moment donné, il faut juste se dire que là, on a comme priorité dans les rédactions une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Et lors de la conférence animée par Pascal Coulisson, vous citiez un exemple qui illustre bien ce que vous dites à l'instant. C'est que pendant votre campagne pour la primaire écologiste en 2021, c'est pendant l'été que vous avez eu vos premières invitations dans les grands médias parce que les rédac-chefs étaient en vacances et que c'était des journalistes qui vous appelaient, des journalistes stagiaires qui vous appelaient pour vous faire intervenir.
Des jeunes journalistes stagiaires femmes qui m'avaient connue par le mouvement MeToo et qui du coup se reconnaissaient en moi et qui voulaient que cette parole puisse être entendue. Je les remercie vraiment du fond du cœur, ces femmes, parce qu'en fait elles m'ont permis d'émerger de manière très discrète en fait, et très sorore et très masquée, et je ne les connais pas, c'est-à-dire qu'en fait elles ne se présentaient même pas à moi dans les rédactions, mais c'est aussi ce type de geste-là qui nous permet d'atteindre une forme d'égalité. Même si, évidemment, quand je dis ça, après, je me serais plantée sur les interviews, l'affaire s'arrêtait là, mais au moins, c'est elles qui m'ont permis d'accéder pour les premières fois au micro, et donc, reconnaissance éternelle.
Est-ce que justement, vous diriez que la lutte féministe, qui passe aussi par les médias, elle ne doit pas être dépolitisée, parce que c'est justement le cœur de cette lutte?
Alors, la lutte féministe, elle est comprise comme étant une espèce de réaction un peu personnelle, émotive, émotionnelle à une situation, alors qu'en fait la lutte féministe est une lutte politique, et finalement c'est presque, j'ai envie de dire, la lutte la plus ancienne, la plus universelle qui soit, c'est-à-dire que dans tous les pays et puis depuis des siècles et des siècles, eh bien les femmes se battent pour l'égalité des droits, donc en fait c'est la lutte politique par excellence, j'ai envie de dire, et donc c'est pas possible de renvoyer ça à juste une espèce d'hormone, de gestion des hormones ou d'humeur, et là pour le coup les hommes ont leur responsabilité. Ça fait partie de la déconstruction dont je parlais tout à l'heure.
Et c'est un petit peu comme le combat écologique que vous portez aussi d'ailleurs. C'est une lutte qu'on ne peut pas dépolitiser. Et vous avez fait cette alliance des deux luttes avec l'écoféminisme.
Oui, parce que je pense que ça participe d'une structure sociale en fait. Et ça participe d'un rapport à l'autre. Donc l'autre humain, femme, ou l'autre non blanc, ou l'autre en tant que animaux qui sont qu'on peut exploiter, qu'on peut enfermer, qu'on peut complètement, bon, voilà. Et en fait ce rapport au fait que pour mon plaisir personnel je peux asservir la totalité de la planète, eh bien c'est pas possible. C'est-à-dire que là on arrive à la fin de cela, ça nous envoie dans le mur, ça s'appelle le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, et ça met notre vie en danger. Donc en fait aujourd'hui ce qu'il nous faut revoir, c'est revoir notre rapport à l'autre, l'altérité, et reprôner, mettre au centre de la table la question de l'égalité, la question du respect, la question de la non-destruction. Et ça, ça nous envoie jusqu'au capitalisme, en fait.
Eh bien, merci Sandrine Rousseau d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Campus France à l'occasion de ces assises du journalisme de Tours.
Merci beaucoup.